Radio Spirale.
En avril 2011, la librairie Olivieri accueillait le prix des 5 continents de la francophonie pour une rencontre avec sa plus récente lauréate, Liliana Lazar. Plusieurs auteurs de la francophonie étaient également présents. Vous pourrez d'ailleurs entendre une intervention plutôt colorée de Franck Étienne, une des figures les plus importantes de la littérature haïtienne.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et nous sommes très très heureux de vous accueillir ici à la librairie Olivieri qui fait un travail exceptionnel au niveau de la diversité. Nous sommes ici, ce qui nous réunit, c'est justement Madame Liliana Lazar qui est auteure de Terre des Affranchis et publiée chez Gaillac. Et Liliana Lazar a eu le prix des 5 continents de la francophonie pour ce livre. Ensuite, le prix récemment au Salon du Livre au Salon international du Livre de Québec, elle a eu le prix littéraire Québec-France. Donc, elle a eu un tas d'autres prix. J'aime dire à Liliana qu'elle a eu 17 prix. Donc, elle est un petit peu gênée, un petit peu humble, mais je pense que c'est un livre qui aura 17 prix. En tant qu'haïtien, je fais du vaudou, c'est ce que j'ai vu un soir. En rêve, j'ai vu qu'elle a eu 17 prix. Et donc, ma première question, c'est de dire à Liliana Lazar, c'est pas mal, hein, un premier livre. Et puis, dans mon rêve, 17 prix.
Je publierai mon prochain livre à mémoire d'encrier, comme ça, les 17 prix seront...
Donc, on commence tout de suite par dire que Liliana Lazar est née en 1972 en Moldavie roumaine. Et puis, elle a passé l'essentiel de son enfance dans la grande forêt qui borde le village de Slobozia. Il y a un malentendu là parce qu'à chaque fois, la première question qu'on lui pose est comment vous avez vécu dans la forêt. Donc, et puis, elle dit, mais tout le monde me pose la même question parce que c'est en quatrième de couverture de son livre, c'est comme ça. Qu'elle a présenté. Et ensuite, que son père était garde forestier. Elle est arrivée en France en 1996. Et puis, Liliana vit au pied des Alpes, en France. Liliana Lazar écrit directement en français. Donc, il y a dans la présentation même du livre, sur le site de l'éditeur, il y a l'éditrice qui a travaillé sur le livre, a dit qu'elle a reçu une première version du livre, et puis un an après, elle a reçu un autre manuscrit. Elle ne savait pas, et elle s'était dit, mais je me suis déjà promenée dans ces paysages-là, je me suis reconnue dans ces forêts-là. Donc il y avait un premier texte, et puis un deuxième texte. Qu'est-ce qu'il y a de ce premier livre, Terre des Affranchis, et de ce deuxième texte qui a été soumis encore à l'éditeur?
Bonsoir à tous. D'abord, juste pour vous dire que je me sens vraiment aussi émue que le jour où j'ai reçu le prix des 5 continents, parce que déjà, il y a Madame Lise Bissonnette qui est membre de ce prestigieux prix. Et bon, de voir tant d'écrivains de la diversité qui sont là, venus m'écouter. Enfin, vraiment, moi, je ne fais que débuter et j'ai l'impression que je ne suis pas à la bonne place. Mais voilà, ça me fait plaisir. Donc, pour répondre à la question de Rodney, comme c'est mon premier roman, je ne savais pas trop comment ça se passait pour se faire éditer. Donc, j'ai pris quasiment toutes les adresses de toutes les maisons d'édition. J'ai trouvé en librairie, sur Internet. Et j'ai photocopié mon manuscrit en 40 exemplaires. J'ai tout envoyé par la poste. Comme ça, j'ai fait un beau chèque et j'étais contente. J'attendais des réponses. Et j'ai eu beaucoup de réponses assez stéréotypées, si je peux dire. Voilà, sans réponse de notre part, considérez que votre manuscrit n'a pas été retenu. Et il y avait 4 ou 5 réponses qui étaient personnalisées, où on me disait, votre manuscrit a des qualités indéniables. Mais on ne sait pas, enfin... Il y avait des petites remarques, donc j'ai compris par la suite que c'était un signe de la part de l'éditeur, libre à moi de retravailler le texte ou pas. Donc, un peu déçu, je l'ai mis dans un tiroir et une année après, j'ai repris ce texte Et j'ai relu tous ces courriers et avec le recul, je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. Surtout la principale remarque qui revenait dans tous ces courriers, c'était que je voulais aborder trop de thèmes à la fois, parce que dans le texte d'origine, j'avais commencé une histoire qui se passait dans le monastère, parce que dans mon livre, je parle d'un monastère qui restait dans le décor, mais où rien ne se passe, enfin, je ne raconte plus. Et c'est vrai que ça faisait trop d'histoires dans l'histoire. Même comme ça, beaucoup d'auteurs disent que pour leur premier roman, ils mettent quasiment tout ce qu'ils ont. Vraiment, ils ont envie de mettre tant de choses. Et moi, je pense que j'ai fait encore plus que d'autres. J'ai vraiment voulu en mettre énormément. Donc, dans ce deuxième texte, enfin, le texte tel qu'il est édité aujourd'hui, il y a moins de choses que dans le texte original. J'ai retravaillé certains personnages. J'ai essayé de leur donner plus de relief. Il y a, par exemple, on en parlera après, le personnage du policier, je l'ai retravaillé, j'ai rajouté plusieurs pages. Enfin, je ne sais pas si j'ai assez répondu à la question, je me suis un peu attardée. Mais
bon, voilà. Les gens qui ont envie d'écrire un premier roman, ils savent qu'ils ne doivent pas mettre tout.
Et surtout qu'il faut bien cibler sa maison d'édition, qu'il ne faut pas essayer. Bon, tout le monde ne peut pas être publié chez Gallimard, et tant mieux. Parce que les petites maisons d'édition sont là pour accompagner les auteurs. Et c'est vrai que moi, avec le recul, je me dis que ça a été vraiment une chance d'être publié dans une petite maison d'édition où j'ai été bien accompagnée, bien conseillée. Et maintenant, je sais comment ça se passe pour se faire éditer. Enfin, en tout cas, il faut pas aller dans tous les sens.
Je suis très, très... Moi, j'ai lu ce livre très, très vite. Et quand j'ai reçu le livre, tout de suite, je me suis mis à lire le livre. D'habitude, je ne lis pas ce qui ressemble au fantastique. J'ai été un petit peu dérouté. Et puis, tout de suite, ça m'a pris... En fait, je pensais que j'allais revenir sur le livre. Mais je l'ai lu de la première page à la dernière page. Il y a, en fait, beaucoup de péritextes. Avant d'entrer dans le texte, on commence par le nom de lieu. Et c'est peut-être pourquoi les gens, en fait, les gens vous mettent souvent dans la forêt. Parce que les lieux sont présents, le monastère, le lac, etc. Et vraiment présents avec de très belles descriptions. On a l'impression que les lieux deviennent pratiquement des personnages, comme la fosse au lion, le lac, parce que le lac a été rebaptisé, etc. Et tout se passe autour, dans la maison même de cette famille, en fait, dont le père. Et vous allez savoir, et puis vous allez lire comme moi, et vous allez voir. Mais ça commence par Slobozia, le lieu, nom de lieu. Et puis elle définit du verbe libérer, délivrer, affranchir. Et le livre s'appelle Terre des affranchis. Quel est le je ne sais pas, ce sont tes premiers mots, ce sont les mots que tu choisis de mettre en premier, en exergue dans le livre. C'est quoi la relation entre Terre des affranchis et Slobozia, là où se déroule même l'histoire?
Voilà, bon, la réponse est déjà dans la question. C'est vrai qu'à l'origine, moi, j'avais intitulé mon manuscrit Slobozia, Terre des affranchis. Enfin, Slobozia, c'était le titre. Et j'ai posé des questions un peu autour de moi à mes amis. Je leur ai dit, si tu vois un livre dans un librairie qui s'appelle Slobozia, est-ce que tu as envie de l'acheter ou de le prendre, au moins de le faire? Dis-moi, comme ça ne me dit rien. Donc, Slobozia... Ça a un sens parce que en Roumanie, il y a beaucoup de localités qui s'appellent Slobozia parce qu'il y a les Roms, les Tziganes ont été esclaves pendant 5 siècles en Roumanie. Et ils ont été affranchis au début du 19e siècle et les endroits où ils ont été sédentarisés, enfin on les a un peu obligés à sédentariser, se sont appelés Slobozia. Et donc ça a un double sens, enfin c'est l'endroit où se déroule l'histoire, mais aussi c'est symboliquement par rapport à mon personnage, par rapport à l'histoire des Roumains. C'est vraiment le personnage doit s'affranchir de ses péchés, doit s'affranchir de lui-même, finalement. Les Roumains se sont affranchis du communisme. Il y avait un clin d'œil comme ça entre les différents... Donc je trouve que le titre est bien choisi et il est assez... Même si ça peut intriguer, au début on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, terre des affranchis? D'ailleurs mon éditeur m'a dit, affranchi, au début j'ai hésité parce que ça me faisait penser un peu au repenti de la mafia italienne, elle avait peur que ça porte un peu à confusion, mais moi je suis assez contente de ce titre.
On commence par l'incipit, en fait, et puis dès le départ on est situé, une bonne demi-heure de marche dans les bois est nécessaire pour arriver jusqu'au lac. Il faut d'abord longer les collines qui surplombent Slobozia et s'enfoncer plus profondément dans les taillis des hêtres et de chênes. À son approche, le sentier se fait sinuer. La chênaie devient plus dense. Puis, quand le marcheur, etc., etc., donc on a l'impression d'être dans un roman d'initiation où il faut marcher pour découvrir. Et c'est... Donc, comment situer ce roman, puisque d'abord, on est dans la présentation du lac, et puis on va être dans la présentation même de dans la généalogie familiale. On aura un roman familial, on aura Victor le père. Comment, en fait, ce lieu et ces personnages, comment vous les associez?
Je voulais présenter d'abord les lieux. Je pensais que c'était important de permettre au lecteur de visualiser les lieux où ça allait se passer. Donc, ça a été aussi une façon pour moi de me remémorer les lieux. Enfin, c'est vrai que ce n'est pas courant de mettre un prologue dans un roman, mais je ne le regrette pas. Même s'il y a des personnes qui m'ont dit, finalement, si je m'étais arrêtée au prologue, peut-être je n'aurais pas fini le roman. Donc, il y a les deux avis, mais moi, je suis assez contente. Moi, j'avais besoin de faire une entrée en matière, finalement.
Mais les repères sont très solides. On voit, il y a une visualisation réelle de ce lac qu'on va... Tout va se passer pratiquement autour du lac qui va être baptisé, la Fosse aux Lions. Et puis, tout est ce qu'il y a, c'est en fait, dans le point de vue narratologique, tout est lié. Donc, comment lier même le monastère? Est-ce que comment vous procédez? Est-ce que vous mettez dans les descriptions des lieux, ensuite vous mettez les personnages dans les lieux? Moi, je lis ça comme si les lieux étaient même des personnages.
C'est vrai qu'il y a, surtout, on parle souvent du lac, la Fosse aux Lions, qui est presque un personnage à part entière, parce qu'il a une vie qui lui est propre. Enfin, on le voit en action, il n'est pas passif. Et encore une fois, bon, c'est vrai que c'était mon choix de parler des lieux. C'est comme une invitation au voyage. Voilà où je veux vous amener, où je veux vous entraîner. Je vous amène en Roumanie, dans la forêt, il y a un petit lac, et après, vous verrez ce qui va se passer par là.
Et pour la généalogie familiale, comment vous êtes pris de manière si dynamique pour mettre en place cette famille-là? Il y a le père qui va mourir, il y a Victor, le père Tudor Lucas, il y a Victor Lucas qui est le personnage central et qui lui aussi est appelé par la mort, à une pulsion de mort qui est très très forte. Il y a Eugénia la sœur qui va, il y a la mère Anna qui va mourir, Eugénia la sœur qui va mourir aussi. Donc quelle est cette grande douceur dans le livre et en même temps cette violence? Comment lier tout ça? On a l'impression de lire un beau conte d'aventure et puis il y a du sang, il y a... Donc comment lier, c'est quoi la recette pour un premier livre, ne pas tout mettre, mais comment joindre cette douceur, ce ton assez doux et cette violence?
Donc là, vous parlez du résultat, mais pour arriver à ce résultat, oui. j'ai dû travailler, j'ai travaillé des années, ça a été très long. Moi, j'avais mon personnage, enfin, j'ai lu un fait divers, qui parlait d'un homme qui avait vécu caché pendant longtemps, qu'on a découvert au bout de cinquantaine d'années, à la mort de sa sœur. Donc, je me suis inspirée de ce fait divers, et donc j'avais le personnage de Victor Luca. Pour le rendre crédible, vivant, ce personnage, j'avais besoin de le mettre dans un environnement familial qui explique un peu son passé, sa psychologie. Donc, je savais qu'il allait être caché par sa mère et sa sœur, je l'ai choisi ainsi, et j'ai créé aussi le personnage du père pour expliquer que Victor a eu une enfance malheureuse puisque son père était violent. Et le fait qu'il rentre dans la vie adulte en commettant le parricide parce qu'il tue le père, c'est déjà une première clé. Enfin, je ne veux pas dire que j'ai mis des clés tout le long du roman, mais on dit que celui qui tue le père est maudit. Donc finalement, dès le départ, on sait que sa vie ne sera pas facile. Il y a le deuxième élément qui viendra ensuite un peu renforcer cette idée, c'est qu'au moment où il tue le père, il demande l'aide de cela qui est maléfique. Donc il conclut un pacte avec le diable. Et là aussi, ça veut dire que ça, qu'il n'aura plus trop le choix finalement. Il sera acteur et en même temps victime de ce pacte qu'il a conclu.
J'aime bien en fait acteur et victime parce qu'il y a toujours cette double image de Victor. On lit le livre, on voit Victor, on dit mais est-ce un ange ou un démon ? Parce qu'on sent que Victor est victime de sa propre peur. C'est-à-dire qu'il a peur de lui-même et c'est comme s'il était enchaîné par quelque chose qui le dépasse. Il y a une histoire de violence qui le rattrape. Je te demanderai de lire à la page 53 un portrait, un si beau portrait de Victor, et puis vous allez voir. Et au départ, on a l'impression que c'est un type très bien, comme nous, et puis qui... Et ça va sortir de comme nous, je dirais, peut-être que je mens, mais j'imagine que Victor est comme nous, et puis il va sortir. Et on va voir que c'est un assassin commun. Avec la page 63, c'est la journée.
La journée, Victor ne quittait jamais la maison, de peur d'être reconnu. Allongé sur le lit de la cuisine, il écoutait durant des heures sa mère et sa sœur raconter de vieilles histoires populaires, mêlant folklore et légendes. Victor avait toujours été solitaire. Les gens ne lui manquaient pas. Anna et Eugenia lui suffisaient. Seule l'inactivité lui était parfois difficile. Aussi, souvent s'enfermait-il dans la grange pour fendre quelques rondins de bois. Victor dormait de plus en plus la journée, attendant la tombée de la nuit pour commencer à revivre. L'obscurité était devenue son allié, celle qui lui permettait d'exister au monde. Les nuits d'été, il lui arrivait parfois de s'allonger dans la cour pour observer les étoiles. Enfin, il pouvait respirer, lui tellement habitué à la vie au grand air. Pourtant, jamais il ne s'éloignait de la maison. Anna lui avait formellement interdit de franchir la clôture. Pour parer à tout risque, Victor avait aménagé une cachette sous le toit. Une trappe dans le plafond permettait d'y accéder rapidement dans le cas où un visiteur impromptu se serait présenté.
Ok, c'est bon. Merci. Donc, on va dire. Et puis en même temps, Liliana Lazare est roumaine et puis c'est écrit dans le livre, elle écrit directement, elle écrit en français. Et est-ce que, c'est quoi cette relation avec la langue française comme, en fait, c'est des questions qu'on pose toujours à un haïtien, comme on parle un peu de francophonie, c'est quoi la relation aux langues en roumanie, je dis, parce que je connais beaucoup de roumains qui parle en français, et une relation à la langue qui est une relation très, 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 très de proximité, très forte.
C'est vrai que ça, depuis le prix de la francophonie, on m'a posé cette question à chaque fois que j'ai fait une rencontre. Mmh. Et moi, quand j'ai commencé à écrire en français, je ne me suis pas posé la question de mon rapport à la langue. Je ne me suis pas dit, je vais écrire en français, en roumain, je n'ai pas hésité. Enfin, pour moi, c'était évident que j'allais écrire en français. Enfin, c'est depuis que je me demande pourquoi j'ai fait ce choix. Si un choix... Enfin, j'ai écrit en français parce que je voulais envoyer mon manuscrit à une maison d'édition en France. Donc, pour moi, c'était évident. Donc, je n'ai pas pensé à écrire en roumain pour l'envoyer en Roumanie, parce que ça aurait été la suite logique. Et par la suite, je me suis quand même interrogée et si vraiment c'était anodin. Et je me rends compte que non, le fait d'écrire en français me permet d'être moi-même, de sortir un peu de ce que je suis au quotidien, de mes barrières, mes frontières. Nous avons tous on s'auto-censure quelque part, et le fait d'écrire en français m'a permis de me libérer de toute
d'une certaine, d'entrer dans la terre des affranchis,
d'une certaine pudeur. C'est pas que je suis que je suis pudique, mais je veux dire surtout dans les scènes où il y a les crimes, dans mon regard sur la société roumaine, sur l'Église, la relation que celle-ci entretient avec la politique, tout ça, je pense que je l'ai écrit avec plus de liberté que je l'aurais fait en roumain, si le livre, je l'avais écrit en roumain. Et d'ailleurs, je suis certaine que le livre n'aurait pas été le même. Et depuis, j'ai essayé d'écrire en roumain quelques pages. Et c'est vrai que j'écris pas du tout pareil en roumain et en français, parce que là je travaille sur autre chose, et je me suis amusée un jour et de même où j'ai essayé d'écrire à la main, alors que d'habitude j'écris à l'ordinateur, et c'est pareil, il y a vraiment une grande différence.
Mais c'est quoi votre identité d'écrivain en écrivant en roumain ou bien en français ou bien en allemand? Est-ce que c'est la même écrivaine qui écrit? Est-ce que c'est la même relation au monde?
Oui, c'est la même relation au monde, mais par contre, c'est pas. Comment dire? J'arrive pas à exprimer les mêmes choses. J'arrive pas à sortir de moi, en sachant que ça va être lu. J'arrive pas à mettre par écrit les mêmes choses. Encore une fois, vraiment, je m'auto-censure. Là, je l'ai remarqué. Et bon, normalement, un écrivain, peu importe la langue qu'il écrit, il n'a pas à se mettre des barrières. Mais après, il y a culturellement, enfin, je sais pas, quand je commence à écrire en roumain, il y a certains réflexes liés à mon éducation, à ma culture. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas trouvé la réponse à tout. Mais c'est vrai que c'est pas. Encore une fois, c'est pas anodin, ce choix, parce que finalement, inconsciemment, ça a été quand même un choix.
Puis ce qui est de plus difficile dans un livre, dans un premier roman, et puis il y a une figure d'écrivain, c'est que Victor va, il y a l'écriture, la figure de l'écriture est très très présente dans le livre, et que Victor, malgré lui, va devenir écrivain grâce à Daniel qui écrivait son journal, et puis Daniel pour sauver Victor de son péché, il y a toujours en fait à franchir comme sauver quelqu'un. C'est comme Victor voulait sauver son âme, et c'est Daniel qui va l'aider à trouver ça, à sauver son âme par le biais de ce livre-là. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de ce personnage Daniel, et qui est comme le double de Victor, celui qui assume en fait toute la malédiction et qui dit à Victor, voilà, j'ai les réponses à tes questions, pourquoi ne pas être bon, pourquoi ne pas être quelqu'un de normal, pourquoi la tentation de la mort est si forte, cette pulsion de la mort, qui fait que même quand Victor veut aimer, il rencontre une fille, il va découvrir l'amour, et ça finit par l'étranglement, il va étrangler la fille, sans même le savoir, sans même le vouloir. Quelle est cette conscience, quelle est cette puissance de la mort malgré soi? Donc comment, en fait, et c'est bien beau, celui qui va devenir écrivain sans jamais avoir écrit vraiment. Et c'est quoi cette marque de l'écriture? Puisque avant, Victor allait transcrire en fait des livres bibliques pour le prêtre du village.
En fait, au début, j'ai fait recopier à Victor des livres parce qu'il fallait bien que je lui trouve une occupation. Pendant ces 20 années, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut quelque chose qui dure longtemps, qui soit crédible. Donc, je suis partie de là. Après, j'ai choisi enfin, il y a eu cette option de recopier des livres religieux. C'était un double but. Ça me permettait de parler de communisme et du rapport de l'Église, enfin, comment l'Église arrivait à diffuser les écrits des saints. Et aussi, comme il recopiait les vies des saints, c'est pour lui une façon de réfléchir à ce qu'il a fait, de prendre exemple sur ces gens qui étaient des pécheurs et qui sont devenus des saints. Et donc le parallèle avec Daniel, c'est que Victor est pas seulement un lâche, il devient un imposteur après en prenant l'identité de Daniel. Et Daniel est aussi un criminel. Mais la différence entre Victor et Daniel, c'est que Victor ne cherche pas vraiment la rédemption. C'est ceux qui l'entourent qui voudraient qu'il soit sauvé. C'est plus la mère, la sœur, qui se soucie du salut de l'âme, le prêtre. Mais lui-même, il veut surtout ne pas aller en prison. Voilà, c'est tout ce qui lui importe. Alors que Daniel, c'est un criminel qui choisit la réclusion. C'est une réclusion volontaire, même s'il vit en pleine nature, c'est un ermite. Il va s'installer près de la fosse aux lions, cette fosse maléfique. Il cherche vraiment le salut de l'âme, il a une réflexion sur sa vie, et il se dit, si j'arrive, quand il sait ce qu'a fait Victor, il dit, je prends ton identité, tu prends la mienne, et toi tu es sauvé, et moi aussi, parce que toi tu pourras recommencer une nouvelle vie, en espérant, en lui disant, cesse de faire le mal et tu recommences à vivre. Et lui, il espérait trouver grâce aux yeux de Dieu, comme ça, en redonnant une nouvelle vie à un autre. Ce qu'il n'a pas compris, là, c'est vrai que Daniel, on me dit, c'est un personnage positif, mais il y a un petit. Il n'est pas tout à fait un personnage positif, dans ce sens où il a pas compris quelque chose d'essentiel, c'est qu'on ne peut pas faire le salut des autres malgré eux-mêmes. On peut faire son salut à soi, mais on peut pas, on peut aider l'autre, on peut pas. Mais s'il n'y a pas un travail personnel, ça ne sert à rien.
Est-ce que vous voulez, j'aimerais bien que vous lisiez pour nous un autre bout. Je ne sais pas si. Je ne veux pas vous imposer un bout. Non, non, vous
Non, non,
choisissez vous-même. Donc,
mais il faudrait que ça aille peut-être. Il faudrait que je trouve un passage avec Daniel.
Donc avec Daniel. Avec Daniel, vous pouvez en trouver vers la page 177.
Bon, mais vous avez déjà la page, voilà, ça va plus vite. Si vous m'aviez dit, j'aurais préparé quelque chose. Eh oui, mais voilà, pour moi, c'est la surprise, parce que si j'avais su qu'il y avait la lecture, j'aurais travaillé. Le journal de Daniel fut édité à l'automne, sous le titre de « La rédemption de Victor Luca ». L'éditeur Trajan Zaharia orchestra de main de maître la campagne de promotion du livre. Au mois d'octobre 1990, une séance de dédicace se tint dans le salon de la prestigieuse librairie d'État de Yach. Depuis le début de l'après-midi, une foule compacte se pressait contre la porte vitrée de la librairie du peuple. « Regardez-les, » s'amusa Zaharia. « Les Roumains sont tellement habitués au fil d'attente que même pour lire, ils peuvent faire la queue pendant des heures. »« Ces gens ont faim d'espérance, » reprit l'évêque Théophile d'un air solennel. « S'ils attendent des jours meilleurs, ce n'est pas pour demain. » »« Si la rédemption de Victor Luca les aide à patienter, c'est déjà beaucoup, » soupira l'évêque. L'éditeur jubilait. Le petit homme rondouillard mesurait déjà les profits qu'il allait tirer de la vente du livre. Il souriait de toutes ses dents. Quelle idée géniale d'avoir fait venir cet évêque pour le lancement du livre. Toute la presse locale avait fait le déplacement pour couvrir l'événement. Chacun voulait voir Victor, lui parler, et pour les plus chanceux, recevoir un conseil spirituel. Zaharia avait tout prévu de main de maître. Pas de discours. Victor n'était pas un bon orateur. Juste une brève dédicace sur la page de garde, une croix suivie des initiales, VL, suffirait. Il y avait au moins 800 personnes qui attendaient dehors, alors il fallait faire vite. D'anciens agents de la Securitate assuraient un service d'ordre musclé. Au fond de la pièce, Victor trônait derrière un large bureau. À côté de lui, on avait placardé au mur une immense affiche qui reproduisait la couverture du livre. Victor en prière dans son grenier.
Merci. En fait, je vais vous dire un petit peu, de faire une petite extension de ce qui a été dit sur le livre. Donc, on commence par Jean-Marie Le Clésio qui dit de ce livre: vous allez être entraîné par une vague que vous ne contrôlez pas. C'est la première édition, l'édition Gaillac, et le livre a été repris en fait à la collection Babel de Actes Sud, la collection Babel, donc qui est moins chère que la première collection. Donc, ce qui montre la dynamique au niveau de l'édition de ce livre. Et envoûtant et engagé, un conte politique sur l'insoutenable tranquillité de l'être, c'est Télérama, et divertit des paysages et théorise et fascine le Nouvel Observateur. Avec brio, l'auteur brouille les frontières du roman fantastique, du récit policier, de la parabole. Terre des affranchis célèbre l'éclosion d'un indéniable talent de narration. Donc c'est un petit peu ce que le jury du prix des cinq continents de la francophonie a évalué comme un livre incontournable. C'est un petit peu ce que les journalistes après vont remarquer. Et je vais faire un petit peu, je vais être un petit peu mal élevé. Je vais demander à quelqu'un qui est membre du jury, qui fait partie de ceux qui ont donné le prix et la responsabilité à Liliane Alazar, qui est ici parmi nous. Je vais lui demander si elle peut dire un petit mot. Je ne lui ai rien dit, mais je pense qu'elle ne me refusera pas cette demande. Je voudrais bien la surprendre, parce qu'elle surprend toujours les gens. C'est Madame Lise Bissonnette, qui est ici avec nous. Je vous demande de l'applaudir. Et elle est membre du jury du prix des cinq continents. Donc j'aimerais bien, si elle veut, nous dire, le micro est là.
Ça va, René. Alors, d'abord, vous dire que le prix des cinq continents n'est pas le premier qu'elle a reçu. Hein. Ce qui nous avait beaucoup étonnés quand on s'est rencontrés, c'est que vous aviez déjà reçu plusieurs prix, moins connus, en fait, pour ce livre, dont des prix de lecteurs. Et là, je crois que c'est important de le souligner, parce que, bon, des prix de lecteurs, il y avait des gens qui, avant les journalistes, avant les membres du jury, avaient déjà reconnu les qualités de cet ouvrage. Donc ça vaut la peine, parce que là, elle n'est pas très loin du 17. Hein? ça va bien. et plus le prix France-Québec là, qui vient d'arriver aussi, donc les choses vont bien. Ceci étant dit, ce qui est important, c'est de rappeler pourquoi le jury l'a choisi. Vous rappelez d'abord ce qui permettrait une petite réclame pour le prix des cinq continents de la francophonie, puisque je suis ici avec la personne qui coordonne ce prix, Myriam Sangor, qui à Paris coordonne le prix des cinq continents de la francophonie. C'est donc, le mot le dit, les cinq continents de la francophonie, qui est un prix qui est donné par l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est le seul dans le monde francophone qui met en concurrence, si on peut dire entre guillemets, des romans qui viennent de, en tout cas théoriquement, de tous les pays de la francophonie, en tout cas des cinq continents. Et ce sera la 10e année cette année, ceci est le 9e, c'était la 9e édition avec Liliana, et nous fêterons donc les 10 ans de ce jury qui est un jury permanent. Donc, c'est comme le Goncourt, quand on y est, on y reste. Et donc, on a vu défiler au cours des années tous ces prix et je crois, Myriam et moi, nous disions tout à l'heure, je crois que c'est un prix qui, en tout cas, chacun de nos lauréats ou presque, a connu par la suite une fort belle carrière d'écrivain. Et donc, c'est un beau début, mais je voulais quand même souligner qu'elle avait commencé avant à ramasser les lauriers. La raison pour laquelle nous avons retenu ce livre, il y en a plusieurs, René. C'est, bon, personnellement, je suis très sensible au fantastique, je fais même une thèse là-dessus. Et puis, mais c'est la surprise, en fait, parce que quand on commence à le lire, on a l'impression d'entrer dans un conte roumain dans une forêt. En fait, il y a quelque chose qui nous amène plutôt dans l'ordre du conte, en fait, surtout le côté fantastique, justement, la légende, les craintes, les peurs, la forêt. Bon, alors on se dit, tiens, on entre dans un conte fantastique, oui, mais un conte plus traditionnel par le type de personnage. Et tout à coup, on est, comme dit notre ami Jean-Marie Leclésio, on est comme amené par la vague. Et tout à coup, on se rend compte qu'on est dans la Roumanie de Ceausescu. Et c'est tout à fait autre chose. Là. On n'est pas dans le siècle précédent, on est dans notre, enfin, ce qui était notre siècle, et le livre va être traversé par les difficultés de la Roumanie au moment de la chute avant Ceausescu, après Ceausescu, et puis on s'aperçoit que alors là c'était un conte, mais ça n'est plus un conte. Puis comme disait René, les choses tournent plutôt mal. Il y a beaucoup de violence. Et finalement, les personnages, dans un conte, les personnages sont plus ronds, en fait, et parfois ça se termine bien. Et puis là, ça se termine jamais là où on l'attend. Et puis ça se termine jamais comme on l'attend. Et puis, une des expressions qu'a retenu le jury quand on a voulu qualifier le livre, ça a été de dire ce qui nous a particulièrement fascinés, c'est le fait que, justement, on s'attend à ce qu'il arrive une rédemption. Il y a des personnages là-dedans qui ont des bons sentiments, d'autres qui sont plus complexes, et on s'attend donc à ce que les choses se résolvent à la fin, et finalement, ça n'arrive pas. Donc, le fait qu'il n'y en ait pas de rédemption, que le mal finalement existe et qu'il soit dit, et qu'il arrive, je ne veux pas vous en dire plus parce que vous devez le lire, mais c'est le nœud, là. C'est ce qui nous a amené vraiment, ce qui a fasciné les membres du jury, c'était cette capacité d'exprimer une complexité qui n'a pas de résolution dans le fond, et puis en plus qui n'a pas de, comme on le dit, de rédemption. Donc voilà, c'est ce qui nous a amené. Nous sommes très heureux en fait qu'elle continue à accumuler les applaudissements, et je vous incite effectivement à le lire, parce que c'est, quand on parle de quelqu'un qui raconte aussi la narration, je pense que c'est vous, René, qui avez dit ça il y a quelques instants, les qualités narratives, alors là, c'est tout à fait indéniable.
Merci. Voilà. Merci. Merci. Je voudrais vous demander aussi, je voudrais saluer la présence de Mme Myriam Sangor-Ba, qui est notamment, qui est entre autres responsable du prix des cinq continents de la francophonie. Et le prix des cinq continents de la francophonie a permis la circulation des lauréats du prix. Donc c'est la raison pourquoi Liliana est ici, et Liliana est accompagnée d'un certain nombre d'auteurs qui font partie de cette tournée littéraire, qu'on dit tournée littéraire de la diversité. Et il y a là avec nous, je vais les présenter, mais ce sera aussi l'occasion pour vous de voir ces auteurs-là, parce qu'ils sont dans la ville et ils vont repartir demain pour la plupart. Il y a Tierno Monenembo qui est un Peul. Vous voyez pourquoi je n'aime pas les Peuls? Il n'est pas arrivé encore. Donc je pense qu'il va arriver à la fin. Les Peuls, c'est toujours à la fin qu'ils arrivent. Donc il y a notre ami Felwinsa, qui est sénégalais, qui est là, qui est avec nous et qui va tout à l'heure vous dire un petit mot. Il y a Yara El Gadban, qui est palestinienne, qui est là avec nous, qui est venue dans le cadre de l'espace de la diversité organisé au Salon international du livre de Québec. Il y a, venant d'Haïti, Michel Souka, historien et romancier, qui est là et qui va vous dire aussi un petit mot. Et puis, étonnamment, on a quelqu'un avec nous, on présente un auteur qui a 17 prix, et puis il y a un autre qui ne veut rien de moins que le Nobel, et qui s'est assis là gentiment et qui attend son prix Nobel. Et c'est Franck Etienne, je vous demande de l'applaudir. C'est mon père, c'est mon ami. C'est Franck Etienne. Donc et chacun d'entre eux, est-ce que j'ai raté quelqu'un de la diversité? Chacun d'entre eux va nous dire un petit mot. Felwinsa, on commence par Felwinsa qui va prendre le micro et qui va se présenter au public. Après ça va être Yara, après c'est Michel Souka. Après on laisse la parole à Franck Etienne.
Un grand bonjour à tout le monde. Donc, je suis Felwinsa, j'habite au Sénégal. Je suis un jeune écrivain sénégalais. J'ai publié deux romans. Le premier s'intitule Le Dahij et le deuxième chez Mémoire d'Encrier s'intitule 105 rue Carnot. Donc c'est mon premier séjour ici au Québec et je suis très très heureux d'être là. Voilà. Merci à tous.
Bonjour, on me met dans l'espace de la diversité, mais moi, en fait, ça fait 21 ans que je suis montréalaise. Mais ça va, c'est un grand honneur de faire partie de ce groupe-là. Alors, voilà, le roman que je vous offre s'appelle « L'ombre de l'olivier ». C'est mon premier roman, voilà, découvrez-le et bonne lecture. Merci.
Michel Souka. Michel.
Bonsoir tout le monde, je suis Michel Soukar, je vis en Haïti et je suis ici invité par René, responsable de l'espace, pour présenter mon premier roman qui s'appelle Le Courage et Frère, qui est un texte inspiré d'une tragédie de l'histoire haïtienne. Donc je ne vous dis pas davantage, vous prenez connaissance vous-même du texte. Merci.
Et puis, Franck Etienne.
Je remercie Mémoire d'Encrier, en particulier Audenay Saint-Éloi, Virginie, avec qui j'ai eu des relations téléphoniques pendant plus de 4 mois. Je remercie le public. Audenay a oublié de dire que je suis fondamentalement un artiste et maintenant un écrivain en fin de carrière. Comme me l'a suggéré mon jeune ami de plus d'une trentaine d'années, il ne me reste qu'à produire dans la transparence, parce que moi je suis un écrivain de l'opacité. Je me réclame de la spirale, je me réclame des théories de glissant. J'ai toujours revendiqué mon opacité car la vie, elle n'est pas transparente. La vie, elle se mélange, comme l'a suggéré il y a quelques minutes les deux intervenants, les deux qui ont animé la soirée, l'écrivaine roumaine et francophone et Audenay Saint-Éloi. Il y a tout naturellement un paradoxe au cœur de la vie. Le mélange du jour et de la nuit, le mélange de la douceur et de la violence. Et c'est ce que n'ont pas reconnu les irréductibles tenants de la rationalité aristotélicienne, qui ont fragmenté l'être, qui ont fragmenté la vie. La vie est une globalité. Nous ne savons pas, trop souvent, nous oublions que la lumière peut jaillir du fond des ténèbres autant qu'il peut faire nuit en plein midi. Ce que j'ai remarqué et ce que j'ai noté en écoutant, en suivant cette prestation, c'est la proximité, malgré la distance géographique, la proximité de la Roumanie, de Haïti. Et peut-être aussi une terre proche de la Roumanie, la Pologne. Ce sont des petits pays où il y a un fond de turbulence permanente. C'est comme si j'écoutais un conte, comme l'a dit Madame Bissonnette, qu'on s'est rencontrés, ça fait des années. C'est comme si ce côté fantastique nous renvoyait directement à Haïti. Il suffisait d'enlever certains noms de lieux pour retrouver Haïti. D'ailleurs, la présence, je n'ai pas lu le livre, mais la présence indirecte d'un dictateur nous renvoie à ce que nous avons eu chez nous, en Haïti. Une descente aux enfers qui continue. Et je finis. Vous permettez que je parle ou bien que je m'arrête ?
Vas-y, d'écrivain en fin de carrière. On n'arrête pas.
Moi, j'ai une approche toute récente de la réalité de ces pays-là. Peut-être que la Roumanie en fait partie, mais Haïti, ça, j'en suis sûr, fait partie de cette approche, justifie cette approche. Notre pays, parce qu'il y a dans la salle des Haïtiens, et même les Canadiens, je sais combien ils sont proches de la terre haïtienne, notre pays est un black hole, est un trou noir. Le trou noir, c'est cette étoile éteinte qui continue à dégager une quantité d'énergie exceptionnelle et qui happe et qui broie, qui lamine tout ce qui ose passer trop près de ce trou noir où il y a des multitudes de vortex, des multitudes de tourbillons. Dans cette approche, vous pourriez me demander, est-ce que le trou noir est appelé à disparaître, comme l'a laissé entendre le grand savant qui est mort il y a peut-être 5 ou 6 ans, Stephen Hawking. Sûrement vous l'avez connu, il y en a qui l'ont connu, ce Britannique, et disons diminué dans ses mouvements, il était condamné dans une chaise à vivre, dans une chaise roulante, qui ne pouvait pas parler, mais qui avait la possibilité de s'exprimer à partir d'un appareil très sophistiqué, fabriqué spécialement pour lui, parce qu'on voulait capter tout ce trésor de connaissances, de savoir qu'il avait dans cette cathédrale qu'on appelle le crâne d'un être humain. Il avait laissé entendre dans ses exposés savants que les trous noirs disparaissent. Moi, je crois que nous sommes au cœur du paradoxe, comme il l'a laissé entendre à la fin de sa vie, parce qu'il est revenu sur ses premières déclarations, car c'est un physicien théoricien. C'est un théorie, il a travaillé en théorie. Vous savez que sur le plan de la théorie, on n'a pas besoin d'être dans un laboratoire pour appréhender à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est un des plus grands savants de ces derniers temps. Il est revenu aux nettetés et que l'on ne peut retrouver que chez les savants et les artistes, pas chez les politiciens. Excusez-moi de vous le dire que quelque part, dont je me méfie, je ne les déteste pas, ils font leur travail, mais moi je me méfie des politiciens. Eh bien, avec cette probité qui caractérise les hommes de science et les hommes de l'art, il est revenu sur ce qu'il avait écrit. Et il a dit que les trous noirs existent et n'existent pas en même temps. C'est Haïti. Les trous noirs ne sont pas aussi noirs qu'on le croit. Et ça, c'est encore Haïti. Transparence, opacité, existence, inexistence, vérité, mensonge, clarté, ténèbres. Et moi, je me dis que, au bout de tout ce bouillonnement à l'intérieur du trou noir qui absorbe tout, il y a un collapsus. Enfin, pour employer un terme beaucoup plus intelligible, faisant référence aux deux tours qui s'effondraient, c'est ce qu'on appelle l'implosion. Parce qu'un collapsus, c'est une implosion. Eh bien, le trou noir se produit quand l'astre, quand l'étoile subit une implosion. C'est le cas d'Haïti depuis 1804. Cette implosion a commencé au moment même où on a eu cette fulgurance exceptionnelle qui a étonné le monde et qui étonne encore le monde par-delà nos turbulences, nos dérives. On continue encore, et à juste titre, de considérer cet événement comme quelque chose de particulier dans l'histoire de l'humanité. Le trou noir a commencé à se manifester au moment même où Dessalines a été le père fondateur assassiné. Deux années, à peine 2 ans et 8 mois après l'indépendance, c'est l'assassinat de l'empereur Dessalines. Ensuite, ce choc interminable, agaçant, et il le sait mieux que moi, mais moi je suis du côté de surtout de l'art, ce choc agaçant entre Christophe et Alexandre Pétion. La division, cette division, ce déchirement qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Le long règne de Boyer. Nous avons raté l'unification de l'île. Bien sûr, là, nous sommes dans le domaine des hypothèses, mais qui aurait pu donner une autre île, une autre Haïti, ou bien, je ne sais pas, une autre Quisqueya. Il n'est pas question de privilégier le côté haïtien au détriment du côté dominicain, mais on a eu cette chance. On l'a raté. Et puis, révolution 1843, il faut mettre ce mot entre guillemets, révolution, car on allait avoir une répétition de ces phénomènes appelés révolution, mais qui n'étaient que des turbulences, que des caricatures de révolution. Succession, chez nous, on l'appelle succession de gouvernement éphémère. Et chez nous, le peuple haïtien, dans son humour, l'appelle succession de bonnes mâchoires, parce que tous portaient la barbe, mais ce n'est pas comme ma barbe, qui est plutôt une barbe de prophète, mais eux, c'était des barbes de mercenaires, politiciens. Mais tous, ils ont été renversés après 4 mois, après 5 mois. C'est-à-dire, on a eu 6 ou 7 gouvernements éphémères, se succédant, c'est-à-dire occupant le pouvoir pendant 6 mois, pendant 8 mois, pendant 1 an. Donc c'est l'implosion, c'est le collapsus.
ça a continué pendant tout le 19e siècle avec des ratages que je ne vais pas évoquer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas par flatterie. Et je crois que Michel Soukart, mon jeune ami, serait mieux placé que moi pour le faire. Mais ce n'est pas, c'est pas le lieu. On parle d'Haïti simplement parce que dans le livre de la jeune écrivaine, on retrouve cet Haïti, on retrouve la Pologne, on retrouve même des terres africaines aussi. C'est-à-dire que ces pays-là qui sont actuellement considérés comme des pays en train de se débattre entre la vie et la mort. Implosion, ça continue, l'occupation américaine, la première. Et puis, de dérive, on débouche sur l'horreur, la terreur qu'on appelle le duvalérisme. Et cette descente aux enfers a connu, à partir de Duvalier, une accélération, comme dans le cas des trous noirs. Quand on est en face du black hole, il y a une accélération au niveau de l'énergie et de la densité de la matière. La matière devient de plus en plus dense avec une accélération vertigineuse. On est dans cette accélération. Avec Duvalier, avec Aristide. Et jusqu'à présent, là, on ne sait pas ce qui va arriver parce que le principe d'incertitude de Heisenberg, comme je disais tout à l'heure, demeure le fondement de tous les phénomènes vitaux. Nous ne savons pas. Mais nous pouvons quelque part essayer de, pas d'imaginer, j'aurais pu employer ce terme, mais tellement galvaudé, essayer de flairer, de sentir, de prémoniser, de visionner avec des risques d'erreur ce qui peut arriver. Mais ce qui peut arriver, moi, c'est peut-être le vœu que je fais, mais qui est lié à une vision scientifique. Excusez-moi, je ne suis pas dans la pédanterie. Je réfléchis beaucoup sur le plan des phénomènes scientifiques. Je suis quelque part, entre guillemets, un homme de science, mais dans la théorie. Dans la pratique, j'ai enseigné les mathématiques, la physique, l'électromagnétisme pendant des années, mais j'ai continué, surtout avec l'âge et les expériences personnelles, à explorer de manière théorique la nature des phénomènes vitaux, où il y a une collusion entre le scientifique et les phénomènes mystiques. Ce n'est pas un hasard que la physique quantique, même à partir de Einstein, il y a une sorte de rapprochement entre les préoccupations scientifiques et les préoccupations mystiques. Faites attention, on n'est pas dans la superstition. Je parle là du taoïsme, du zen, du tantrisme et quelque part du vaudou dans ce qu'il reste encore de, je dirais, de saint. Parce que le vaudou aussi, chez nous, a été quelque part perverti, perturbé par tous les déchets, toutes les scories qui ont entravé l'évolution de notre société. Alors, ce qui fait que moi, mon approche, c'est qu'au bout du collapsus, et ça, excusez-moi, je peux me tromper, mais c'est mon approche personnelle, à partir, bien sûr, de toute la lecture que j'ai eue. J'ai tout lu de Hopkins, j'ai tout lu d'Einstein, j'ai lu Max Planck, j'ai lu Niels Bohr, et je continue encore de lire les revues scientifiques les plus sophistiquées. Ça, c'est mon approche personnelle. Ceci n'est dit nulle part. Je crois que au bout du collapsus du trou noir, au bout de cette implosion, comme on peut se référer aux deux tours du World Trade Center, quand ça arrive au fond, il y a une explosion qui se fait. Souhaitons que cette explosion lumineuse s'efface pour notre Terre et que le trou noir redevienne une étoile, une nouvelle étoile lumineuse. Merci.
Merci à Franck Etienne pour ce court discours inaugural. Je pense que vous aurez le reste au Centre Narivé, lundi 25, Franck Etienne. Carte blanche à Franck Etienne et à Michel Souka au Centre Narivé, qui est l'adresse au Centre Narivé, c'est 69-71 rue Saint-Denis. Donc Franck Etienne, qui est abondant dans tout ce qu'il fait en littérature, en enseignement, en sport, en sciences. Et puis il y a une table ronde, je pense qu'il... Et il présentera aussi ses tableaux, poèmes. Et puis ce sera vraiment une fête de rencontrer Franck Etienne, d'avoir le temps, de consacrer du temps à Franck Etienne. Donc ce lundi 25 au Centre Narivé, Franck Etienne signera Rabdia, Journal d'un paria, et Michel Souka signera et son roman Cora Jeffra. J'en profite pour citer aussi les livres de ces écrivains-là, ils sont tous là. Ils peuvent vous dédicacer leurs livres. Félouine Sarr, c'est Jaïd, publié chez Gallimard. Et ensuite, 105 Rue Carnot, publié chez Mémoire d'Encrier. Yaraël Gabdan, c'est L'ombre de l'Olivier, publié chez Mémoire d'Encrier. Et puis, bon, Michel Souka, Courage et Frère, publié chez Mémoire d'Encrier. Et puis, vous avez surtout, en fait, ce qui nous rassemble ici, c'est Terre des Affranchis de Liliana Lazare. Et on dit qu'il a eu 17 prix, mais Lise Bissonnette me dit que le vrai chiffre, c'est 10. Et il y a 7 encore qu'on attend, et elle attend. Et je pense que ça va venir, et puis vous êtes d'accord avec moi, elle mérite 7 prix. C'est 7 autres prix qui se font attendre. Et puis on va les attendre, comme on a notre ami Franck Etienne, qui attend paisiblement le prix Nobel. Donc, et puis tous les ans, il attend. Et il y a beaucoup d'amis avec lui qui, en novembre, attendent. Parce qu'il m'a dit que je ne mourrai pas à Rodney, parce que des fois, il me prend pour son fils, il me prend pour son ami, il me prend... En fait, les rapports avec Franck Etienne, c'est des rapports d'abondance. Et il m'a dit qu'il ne mourra pas sans le prix Nobel. Donc, on va vivre avec lui, on va continuer, puis on va attendre. Comme Liliana disait, on attend tout, même pour lire, on fait une file, on attend. Et en Haïti, on attend pour la pluie, on attend le taxi, on attend la nourriture, on attend tout. Donc, en Haïti, Franck Etienne a ajouté à la liste d'attente. Tout le peuple haïtien attend le Nobel. Donc, avant de clore cette sympathique soirée, on va dire merci aux gens et puis on va dire merci à la directrice de cette belle librairie, Rina Olivieri. Je vous demande une main d'applaudissement.
C'est revenu? Bon, oui. Je me permets, je suis comme ça, j'ai été dans une sorte de fausse timidité, mais...
Ça s'est renversé.
Non, c'est pas que ce soit renversé, je suis toujours dans la théâtralité, même quand j'étais... C'est pour rester dans le climat de ces pays frappés par l'atrocité de ces paradoxes, au cœur de la vie et en même temps au cœur de la mort, au cœur de la folie, au cœur de la lucidité. J'interprète une phrase musicale d'une chanson haïtienne très connue, Pays, ce pays. Pays, pays, pays à Gringoléo, pays à pays à pays à Chaviré, pays à pays à pays à Gringoléo, pays à pays à pays à défalqué. Moins malade, moins couché, bas à lever. Moins malade couché, moins pas salvé, oh, almanoï, m'ba mon isito, bon Dieu l'aime, m'ba lé, oui, bon Dieu l'aime, m'ba lé. Palmano, palmano, bon Dieu l'aime, m'ba lé, oui. Palmano, palmano, mon Dieu, il aime, palmano, ma monicito, Mon Dieu, il aime Maléo. Paya, 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 chalvire. Paya, 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 de chal.
Par une froide journée d'avril 1990 que l'inconnu arriva au village avec la navette du matin. L'homme, qui n'avait guère plus d'une trentaine d'années, portait un grand manteau gris, resserré à la taille par un large ceinturon. Ses longs cheveux noués en queue de cheval et sa barbe taillée en pointe lui donnaient l'allure d'un ascète. D'un aspect négligé, il voyageait avec un baluchon en carton pour seul bagage. À peine descendu de l'autobus, l'étranger longea le grand panneau métallique qui accueillait les rares visiteurs avec la traditionnelle formule « Bienvenue, Slobozia, 1100 habitants ». Deux grands arbres avaient été peints sur l'écriteau pour rappeler qu'ici, tout le monde vivait de la forêt. Cette pancarte n'avait plus de raison d'être, car depuis la révolution de décembre, la population avait nettement chuté avec le départ de nombreux jeunes vers l'Occident. Recenser les habitants et en graver le nombre définitif sur un panneau n'avait de sens que dans un régime autoritaire qui tenait son peuple à résidence. La Roumanie démocratique ne se préoccupait plus de cela. Le mystérieux voyageur s'installa dans un petit appartement au centre du village où il logea pendant une semaine. Un soir, il descendit au bar pour y boire un verre. « Hé, toi !» cria une voix. Affalé sur une table, l'étranger releva la tête sans répondre. Adossé au comptoir, le paysan reprit son invective. Ici, on aime bien savoir qui traîne par chez nous. Avec cette révolution, on voit se promener toutes sortes de vagabonds. L'inconnu se redressa sur sa chaise et observa les clients.
Dans ma succès, on dit un grand merci à Liliana Lazare, Terre des Affranchis. J'espère qu'elle nous a aidés à nous affranchir de nos peurs, de nos fantômes. Et qu'on a chassé un petit peu le malheur qui nous guette. Et j'espère qu'on est devenu, qu'elle a fait appel au meilleur de nous-mêmes et au meilleur d'elle-même. Donc merci encore Liliana, merci à vous. Et puis tous les écrivains sont là avec leurs livres, donc ils sont prêts à dédicacer leurs livres. Merci.
Merci.